Chapitre 2. Trois jeunes filles mûres et vivantes. La tante Agnès secoua la tête. « Tenez, dans ma jeunesse, j'avais une vieille servante qui choua des bords du lac Titicaca, qui me racontait comment, dans l'espace de 30 ans, à la fête des Sénales de l'Interiaïumi, elle avait vu, elle, de ses propres yeux, mûres et vivantes, trois jeunes filles de la ville. » « De quelle ville ?» demanda Raymond. « De Lima. »« Oh, ça se saurait !» reprit Raymond, qui s'amusait beaucoup des mines des deux vieilles et qui était sournoisement poussé par Marie-Thérèse à les taquiner. « Mais ça se sait, mon jeune monsieur !» insista la tante. « On connaît très bien les noms des deux dernières jeunes filles qui ont été mûres et vives dans le Temple du Soleil, l'une il y a 20 ans et l'autre il y a 10 ans. » Oui, 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 nous le savons, répéta en riant Cristobal. Il n'y a pas de quoi rire, monsieur mon frère, grogna Agnès. Et la duègne répéta plus bas. Non, non, il n'y a pas de quoi rire. Mais Cristobal était de plus en plus gai. Pleurez-leront donc les pauvres enfants, et il fit signe de gémir. Enlevés à l'amour de leurs parents dans la fleur de l'âge. Mais monsieur, mon frère, pourriez-vous nous dire comment sont disparues Amelia de Vargas et Maria Cristina d'Orellana ? Oui, oui, qu'ils nous le disent, acquiesçait Irène. Nous y sommes, nous y voilà, je les attendais, repartit le marquis. Je vous prie de parler un peu sérieusement, mon frère. Vous avez connu Amelia de Vargas. Oh, le plus beau sourire de la place à Mayol. Il y a de cela 20 ans, comme le temps passe. Oui, en effet, elle a disparu il y a 20 ans, avec un de ses parents. J'ai entendu raconter avant-hier qu'il s'agissait d'un toréador, interrompit Marie-Thérèse. C'est une histoire qui revient, paraît-il, tous les 10 ans, quand approche Interaïmi. Oh, c'est une histoire qui, dans son temps, a remué toute la ville. À la suite d'une échafourée à la Plaza de Toros, les parents d'Amélia, qui l'accompagnaient, cherchèrent en vain leur fille. Elle avait disparu, elle ne reparut plus jamais. On l'avait vue emportée par des Indiens, et l'on sait parfaitement qu'elle a été murée vivante. Puissance de l'imagination, des foules. La vérité, je l'ai dite, car dans le même temps qu'elle, le parent dont je vous ai parlé et qui la protégeait, disparaissait aussi. Ils étaient allés habiter ailleurs. Oh, cela vous plaît à dire, monsieur mon frère. Heureusement qu'il nous reste Maria Cristina d'Orellana. Évidemment, reprit le marquis. Son aventure, hein, celle-là fut plus triste. Elle se promenait avec son père aux environs de Cusco et entra dans des souterrains dont nul n'a jamais connu les détours. Elle s'y perdit, quoi de plus naturel. C'est depuis ce moment-là que le gouvernement a fait murer les souterrains. « Oui, et c'est depuis ce moment-là, reprit la tante, que le père est devenu fou. Il continue d'errer sur les ruines de Cusco et autour des souterrains en appelant sa fille « depuis 10 ans. C'est pas à lui qu'il faudrait dire qu'elle n'a pas été enlevée par les Indiens pour la cérémonie de l'Interaïmi. Puisque vous dites vous-même qu'il est fou. Et il l'est devenu, à la suite de la certitude qu'il eut de l'horrible sacrifice, quelques jours avant sa disparition dans les souterrains de Cusco, Maria Cristina avait reçu un étrange cadeau, un lourd et vieux bracelet d'or orné en son milieu d'un disque représentant le soleil. Mais ma bonne Agnès, vous savez bien que dans ce pays-ci, nos orfèvres mettent le soleil à toutes les sauces. Oui, mais ce bracelet-là était le vrai, celui qui avait été envoyé également, paraît-il, à Amélia. Ah, ma sœur, vous inventez, vous inventez. Comment voulez-vous, avec des histoires comme les vôtres, que l'on écrive l'histoire ? Surtout, mon cher hôte, ne prenez pas de notes, je vous en prie. Mais je n'invente rien, reprit la vieille, têtue. C'était le vrai bracelet soleil d'or, le bracelet du sacrifice, celui que tous les ans, depuis la mort du dernier roi Inca, Atahualpa, brûlé vif par Pizarro, les prêtres Incas m'envoyèrent à celle qui fut choisie pour être l'épouse du soleil et qui devait être murée vivante. La pauvre Orellana en a assez parlé du bracelet soleil d'or. Toute la ville en a parlé. Oui, ma sœur, toute la ville a bien de l'imagination aux environs de l'Interaimi. Et le marquis, se penchant vers François Gaspard, vous ne sauriez sans doute douter, mon cher illustre hôte, du mal que nous avons à la Société de géographie et d'archéologie pour nous débarrasser de toutes ces légendes. Vous qui êtes un vrai savant.
Oh, le savant ne doit pas dédaigner les légendes, répondit l'académicien. Et je vous dirai que pour mon compte, je suis enchanté de mon voyage et bien heureux d'être tombé dans un pays où elles sont encore vivantes.
À ce moment, un domestique entra et se dirigeait vers Marie-Thérèse. Il portait un léger registre et une petite boîte.
Objet recommandé, fit-il. Le facteur est déjà venu aussitôt et je lui ai dit de repasser ce soir. Mademoiselle doit signer ici.
Marie-Thérèse signa.
Tiens, fit-elle, cela vient de Caramarca.
Mais je ne connais personne à Caramarca.
Qu'est-ce que ça peut bien être que ça? Vous vous permettez?
Et elle déficela, décacheta, ouvrit la petite boîte de bois.
Un bracelet? S'écria-t-elle en riant un peu nerveusement. Eh bien, voilà une coïncidence bien amusante. Mais c'est le bracelet soleil d'or, ma parole. Le bracelet de l'épouse du soleil.
Tous s'étaient levés, excepté les deux vieilles qui n'en avaient pas la force. Et tous les yeux étaient sur le lourd anneau de vieil or bruni, avec son disque de soleil dont les rayons paraissaient éteints, encrassés par la poussière des siècles.
« Eh bien, c'est une bonne plaisanterie !» fit en riant Marie-Thérèse.
« Parbleu !» s'écria le marquis, dont la voix était légèrement changée. « Elle est bien bonne !»
C'est la vengeance, jolie du reste et très élégante, de ce brave Alonso de Cualca, dont tu viens de refuser la main. Il me l'avait bien dit avec son triste et aimable sourire. Je me vengerai de la Vierge du Soleil. Tu sais bien que tout le monde au cercle t'appelle la Vierge du Soleil, puisque tu ne veux pas te marier. Mais qu'est-ce que vous avez à faire une tête comme ça, vous autres?
Et se tournant vers les deux vieilles,
« Quoi, tout de même, vous n'allez pas vous rendre malade pour une simple farce ?»
Marie-Thérèse faisait admirer le bracelet à François Gaspard et à Raymond.
« Mon père, vous direz à Dorlanso que j'accepte son cadeau et que je le porterai en gage de notre bonne amitié. Il est vraiment très joli. On ne fait plus de ces bijoux-là. Qu'en dites-vous, monsieur Ozou ?»
« Moi, répondit François Gaspard, je jurerais que ce bracelet a 400 ou 500 ans, au moins.
On trouve encore de ces trésors dans les fouilles autour des tombes royales, mais ils se font rares. Je ne m'étonne pas que Don Alonso soit allé chercher celui-là jusqu'à Cajamarca, dit le marquis.
« Où est-ce Cajamarca ? » demanda Raymond.
« Jeune ignorant, fit l'oncle. « Sache que Cajamarca est tout simplement l'ancienne Caxamarca des Incas, la seconde capitale de leur empire au temps de Pizarro.
Et la ville où leur dernier roi fut brûlé vif !» fit entendre la voix expirante de la tante Agnès.
On se précipita vers elle car elle se trouvait mal. Il fallut la porter dans son appartement. La vieille Irène suivait, plus pâle que sa guimpe,
et faisant avec son pouce sur son front le signe de la croix. Qui a offert le bracelet? Le lendemain de son arrivée à Lima, l'oncle François Gaspard fut reçu solennellement par la Société de géographie, dont il dut célébrer l'œuvre magnifique, les travaux archéologiques, statistiques, hydrographiques, avec une émotion scientifique qui fut bientôt partagée par tous ceux qui étaient là. Son succès fut grand et le génie français, à son tour, fut loué dans sa personne. Toutefois, le plus heureux, le plus fier, était encore Cristobal, qui prenait sa part de la gloire de l'académicien Ozu. À la sortie de cette séance mémorable à laquelle assistèrent naturellement Raymond et Marie-Thérèse, laquelle avait mis son bracelet en dépit des pleurnicheries des deux vieilles, le marquis rencontra Don Alonso de Cuellar, un charmant jeune homme. « Ah, mon cher ami, lui dit-il, je vous croyais à Caramarca. » Don Alonso ouvrit des yeux énormes, ne comprenait pas. « Oh, écoutez, Cuellar, ne faites pas l'étonner, je ne me fâcherai pas. Vous êtes gracieusement vengé du refus de Marie-Thérèse. Moi ? Allons donc, le bracelet. Quel bracelet ? » À ce moment, Marie-Thérèse et Raymond rejoignirent le marquis. Marie-Thérèse avait vu que son père s'entretenait en riant avec Don Alonso, et elle ne doutait point que le mystère du bracelet fût déjà éclairci. « Merci, ami, dit-elle en tendant la main à Don Alonso, la main où glissait le lourd bijou. Vous voyez, je le porte en gage de notre bonne amitié. Mais je ne me serais pas permis, protesta le jeune homme en regardant tour à tour le marquis, Marie-Thérèse et Raymond. Ah, vous parlez sérieusement, ce n'est pas vous? Je vous jure, mais quelle est donc cette histoire? Et quel singulier bijou est-ce là? Mais vous ne le reconnaissez pas? C'est, paraît-il, le bracelet soleil d'or que les prêtres indiens envoient toujours à l'épouse du soleil à la fête décennale de l'Interahimi, reprit en lui souriant comme un enfant expiègle Marie-Thérèse, car elle n'était point encore bien convaincue par les protestations de celui qui avait vainement demandé sa main. Et comme c'est vous qui avez lancé le surnom dont on me salue partout maintenant à Lima, nous avions pensé que vous aviez voulu, malgré tout, être gracieux avec la Vierge du Soleil. Ma foi, c'est moi qui ai tort de n'avoir pas pensé à cela, soupira Don Alonso. C'était en effet très gentil, historique et ingénieux. Et puisque vous devriez le porter, je ne me pardonnerai jamais de n'avoir pas eu l'admirable imagination de vous envoyer ce bracelet-là. Mais le mérite revient certainement à l'un de ces malheureux amis qui ont bribé le même honneur que moi, señorita, et qui n'ont pas été plus heureux. Tel est voilà justement Pedro Ribera qui passe, sombre et sournois. Ma parole, il a bien l'air d'avoir fait le coup. Et il l'appela, mais pas plus que Cuellar, Ribera ne savait ce dont on lui parlait. Comme lui, il s'extasia sur l'étrangeté du bijou, et comme lui, il regretta de ne l'avoir pas envoyé. Le marquis commençait à être agacé, et il regrettait maintenant d'avoir parlé du bijou à ces messieurs. Il ne pouvait, sans être ridicule, leur demander de taire une aventure qui, après tout, n'était point bien méchante, et il savait que dans 2 heures, sur la promenade au glacier, au thé, à la Plaza Mayor, on ne parlerait que du mystérieux bracelet de la Vierge du Soleil. Marie-Thérèse comprit très bien ce qui se passait dans l'esprit de son père. « Écoute, papa, ce bracelet est maintenant ridicule. » En attendant que celui qui nous a fait cette petite surprise veuille prendre la peine de se dévoiler, qu'il disparaisse et n'en parlons plus. » Sur quoi elle l'ôta d'un geste gracieux et l'enfouit dans son sac à main. « Moi, j'ai une pensée, » dit Raymond. « Si c'était Huascar, Huascar, pourquoi Huascar? Demanda le marquis. Dame, voilà un vieux bijou indien, comme je ne connais que cet indien-là, et que je ne sais qu'il est très dévoué à votre maison, je puis imaginer qu'il n'aura peut-être rien trouvé de mieux que de faire cadeau à votre fille d'un bracelet qu'il aurait trouvé et dont il ne saurait que faire. Non, parlons, plus, mais n'en parlons plus, fit Marie-Thérèse, légèrement rougissante, et que ce soit Huascar ou un autre, cela n'importe plus. Et puis ne soyons pas si impatients. Nous allons peut-être voir arriver, demain ou après-demain, à la maison, un ami de papa, retour de la Sierra, qui me dira en me baisant la main, « Eh bien, vous ne portez pas mon petit cadeau ?»« Non, mais il faudra bien que ça se passe ainsi un jour ou l'autre, » fit Raymond avec une très tranquille désinvolture. Le marquis, qui, lui, tout au fond, était un peu troublé, remarqua aussitôt ce bel air dégagé de Raymond. Il ne lui parut point naturel. « Je parie que c'est vous !» s'écria-t-il joyeux. « Oh non, quoi, moi, oh non, j'arrive. Comment voulez-vous que ce soit moi ?»« Oh, vous pouvez avoir acheté ce bijou à l'escale de Guayaquil et l'avoir expédié à un correspondant français de Caramarca et peut-être réexpédié ici. » « Oui, vous avez voulu vous annoncer. Vous avez dû lire la légende du bracelet soleil d'or dans un des livres de votre oncle. » « Papa, papa, monsieur Ozou est un jeune homme sérieux, un ingénieur qui est venu au Pérou pour essayer d'assécher les mines d'or de Cusco grâce à un nouveau siphon. » « Oui, tu m'en as déjà parlé de ce siphon. Cela n'empêche pas d'envoyer un bracelet. » Mais à quel titre, mon père? Ben, au titre de fiancé, ma fille. Cette fois, Marie-Thérèse rougit jusqu'aux oreilles, et Raymond toussa et sourit d'un air fort niais. Le marquis les dévisageait avec malice et obstination tous les deux. Dites que ce n'est pas vrai. Oh, si tu crois que je n'avais pas deviné, me prends-tu pour un sot? Je savais bien que tu avais laissé un petit coin de ton cœur là-bas, à Paris, et ce n'était que pour en être sûr que je t'ai amené tant de jolis prétendants. Ah, monsieur Ouzou, je l'ai éprouvé, elle vous aime bien, et vous êtes un heureux gaillard. Oh, monsieur, balbutia le pauvre Raymond qui avait les larmes aux yeux, monsieur, je vous assure, je ne pourrais pas avoir la pensée. Taisez-vous et remettez-vous même le bracelet de vos fiançailles au bras de Marie-Thérèse. Ah, quelle joie cette fois, répondit la jeune fille, et après avoir regardé autour d'elle pour s'assurer que dans le coin où il se trouvait, il n'y avait point de gêneur, elle sauta au cou de son père, ou plutôt, elle éleva son père dans ses bras, l'embrassa tendrement, le déposa, se retourna vers Raymond et, ouvrant son sac devant le jeune homme, lui murmura rapidement à l'oreille. « Dites donc que c'est vous qui l'avez envoyé, qu'est-ce que ça peut faire ?» Raymond passa l'anneau en tremblant au bras de Marie-Thérèse. Les oreilles lui sonnaient de si furieuses cloches qu'il lui était impossible d'entendre les paroles de triomphe du marquis, lequel rayonnait d'avoir deviné le mystère des amoureux et du bracelet soleil d'or. Raymond se contentait d'approuver de la tête tout ce que l'autre disait. « Ah bien, comme on dit à Paris, » termina Cristobal, « vous pouvez vous vanter de nous avoir fait marcher. » Et il courut à la recherche de l'oncle François Gaspard, auquel on offrait un champagne d'honneur. Une partie de boules avec des crânes. Raymond et Marie-Thérèse restèrent seuls quelques secondes pendant lesquels ils se regardèrent avec tendresse. Et puis, tout de suite, ils furent rappelés aux contingences par la ruée enthousiaste de toute la gent géographique. Les deux jeunes gens se laissèrent entraîner par le flot. « Mais que dira votre père ?» demanda Raymond, « quand celui qui a véritablement envoyé le bracelet se fera connaître. »« Oh bien, il nous pardonnera. Je ne vous ai fait mentir que pour le rassurer, car entre nous, les histoires de la tante d'Agnès et d'Irène ne l'ont pas laissé tout à fait indifférent. C'est un petit enfant, mon papa. Nous l'aimons bien, n'est-ce pas? Les voitures officielles, les calèches étaient déjà envahies par les membres de la société qui se disposaient à aller faire visiter à François Gaspard les dernières fouilles incaïques aux environs de la ville, puis à prendre le chemin de fer pour les fouilles d'Ancouf. Le marquis était assis en face de l'académicien et tous deux étaient radieux. Marie-Thérèse, au passage, les salua et leur cria qu'ils allaient bientôt les rejoindre. En effet, il était entendu que ce soir-là, on se retrouverait pour y dîner et passer la nuit à la villa que le marquis possédait au bord de la mer, entre Lima et Ancône, ce qui permettrait à François Gaspard de se livrer dès le lendemain matin à sa passion scientifique, car cette demeure estivale, déjà encombrée comme un musée des derniers trésors historiques arrachés à la terre, s'élevait au centre des fouilles mêmes. Cependant, les deux jeunes gens, moins amateurs des choses de la mort que messieurs les membres de la Société de géographie et d'archéologie, s'attardèrent à Lima, que Marie-Thérèse voulut faire apprécier et aimer à Raymond. Ce n'est qu'après une longue promenade sur le Paso de Amancais qu'ils songèrent à aller rejoindre le cortège. Ils partirent en auto par un chemin impossible, déjà menacé par l'approche du soir, et puis suivi par le vol sinistre des gallinazos, ces vautours noirs, toujours affamés, que l'on tolère cependant dans les rues au Pérou, et même que l'on respecte, car les municipalités leur savent gré de contribuer à la propreté des rues. L'auto avançait dans une plaine immense où se succédaient les haciendas, les poyereros, prairies où se fait l'élevage des chevaux, et séparées entre elles par des tapis, sorte de petits murs en tertre, en terre d'un mètre environ. Et puis la plaine n'offrit plus guère à la vue que du sable, vaste étendue lugubre, toute jonchée d'ossements, étalant les restes des malheureux que les collectionneurs ont déterrés et laissés blanchir au soleil. « Eh bien, c'est gai par ici !» s'exclama Raymond. Marie-Thérèse, tout en ne cessant de gouverner pour le mieux sa voiture, montra du doigt quelques métis qui avaient abandonné la garde des chevaux au coin d'une hacienda pour faire une partie de boule avec des crânes magnifiques. Un tibia servait de butte. Ils arrivèrent bientôt aux environs d'Ancône où ils se retrouvèrent le marquis François Gaspard et toute la société qui se promenait parmi les huacas les plus importantes, cimetières indiens du temps des Incas. Le terrain entier était rempli d'obscures cavités. Dans chacune d'elles avait dormi une momie que l'on avait arrachée à son sommeil millénaire. Raymond et Marie-Thérèse étaient descendus d'auto, mais ne s'étaient pas joints au groupe. Ils se promenaient isolés, tristes, au milieu de ces débris funèbres. Il s'était débarrassé de l'auto que le boy avait conduite à son garage d'Ancône. Mais pourquoi ne pas laisser dormir en paix les morts quand la vie est si belle ? Fit la jeune fille en serrant la main de Raymond. Celui-ci la fit asseoir sur un monticule à l'abri de tous les regards, et il se mit à genoux près d'elle, et lui jura qu'il l'aimerait toute sa vie, il lui jura cela sur tous les morts qui étaient là. Et ils joignirent leurs lèvres au milieu de cet affreux cimetière. Le bruit d'un discours les fit revenir aux choses de la mort. Le président de la société, suivi de tout son monde, expliquait les travaux au fur et à mesure qu'il passait devant les fouilles les plus fraîches. En se promenant dans cette nécropole, on peut évoquer, disait-il, l'ombre des Incas et se croire un instant au milieu d'eux. Voici un trou de 2 mètres au fond duquel on a trouvé un paquet couvert de sable. C'était le chien qu'on sacrifiait sur la tombe du maître
et qui devait l'accompagner avec sa femme et ses principaux serviteurs. Le chien portait encore au cou la corde qu'il avait étranglée, et ses pattes étaient ligotées. Puis nous trouvâmes le cadavre de l'épouse, qui elle aussi avait une corde au cou, et qui avait dû être étranglée comme le chien, peut-être parce qu'elle n'avait pas eu le courage de se donner la mort elle-même. Enfin, nous eûmes la joie d'entendre l'ouvrier s'écrier « Aquí está el muerto !»« Voici le mort !» Car pour l'Indien, les cadavres autres que celui du maître ne sont en aucune façon dignes d'intérêt. Et bientôt, en effet, le chef lui-même, gros rouleau d'étoffe, dépassait la fosse et était dépassé ici à mes pieds. Nous avons déroulé les liens et les tissus dont il était enveloppé. Les tissus et la momie étaient dans un état de conservation extraordinaire. La peau adhérait encore aux os de la face et le chef avait conservé tous ses cheveux et toutes ses dents. Les Égyptiens ne faisaient pas mieux, mesdames et messieurs. À ce moment, il y eut un certain tumulte. Et le bruit se répandit que les ouvriers venaient de faire une découverte sensationnelle, celle de trois grands chefs incas avec des têtes extraordinaires. Les groupes revinrent sur leurs pas, et Raymond et Thérèse les suivirent. Alors ils assistèrent à une exhumation de momies vraiment fantastique. D'abord, dans ces dernières tombes, on avait trouvé de petits sacs pleins de grains de maïs et de feuilles de coca, des jarres qui avaient dû être remplies de chicha, tout le viatique enfin pour le grand voyage. Et puis des vases d'or, des amphores d'argent, des coupes, des statuettes martelées, des bijoux. Tout un trésor qu'un coup de pioche venait de révéler et qui avait été déposé au fond de la fosse. Enfin, les momies des trois chefs étaient déterrées, ou plutôt désensablées, avec mille précautions. Et un membre de la société leur avait déjà découvert le visage. Et ce fut presque terrible. Pour comprendre ce que Raymond et Marie-Thérèse furent des premiers à apercevoir, il faut savoir que chez les Incas, comme du reste de nos jours encore, chez les Basques de la montagne, on faisait prendre au crâne vivant la forme que l'on voulait. Les crânes des bébés étaient déformés au moyen d'éclisses, de planches rapprochées et serrées de cordes, et tantôt le sommet de la tête était façonné en cône, tantôt il était aplati et se développait latéralement, et tantôt on en faisait une énorme citrouille, etc. On est maintenant fixé sur le motif de ces différentes déformations. Les Incas n'ignoraient point les sciences phrénologiques et précurseurs de Gall et de Spetsum. Ils essayaient de développer telle ou telle qualité guerrière ou intellectuelle en augmentant telle ou telle partie du cerveau. Mais il est établi que cette déformation n'était permise que pour les enfants de l'Inca qui était destiné aux plus hautes fonctions. Le peuple était condamné à vivre avec son crâne et son cerveau ordinaire. Donc les trois têtes des trois chefs apparurent. Quelle apparition ! L'une de ces têtes était cunéiforme, c'est-à-dire qu'elle montait tel un énorme pain de sucre. Et c'était une chose hideuse que ce front de cauchemar de bête d'Acopalypse, entouré de ses cheveux qui semblaient encore vivants, doucement agités par la brise de mer. La seconde tête était aplatie comme une casquette, casquette crâne très rejetée en arrière. La troisième ressemblait à une véritable boîte carrée, à une petite valise. Des fantômes sur un balcon. Marie-Thérèse recula devant cette triple horreur et entraîna son fiancé, en dépit de la curiosité que celui-ci manifestait, loin de toutes ces violations de sépulture. Ils s'enfuirent ainsi jusqu'à la plage,
qui à Hong Kong est généralement douce et apaisante. Le flot du Pacifique y vient mourir dans un calme absolu. Les courants et la houle y sont peu sensibles. Une grande paix vient du large. Les Liménéens ont fait de ce coin de mer une station balnéaire des plus connues, mais qui, en cette saison, était encore déserte. Marie-Thérèse et Raymond arrivèrent en vue de la villa du marquis de la Torre à la nuit tombante, et encore sous l'impression des étranges figures de mort qu'ils venaient d'apercevoir. C'est en vain qu'ils voulaient en rire et qu'ils essayaient d'en plaisanter. La brise, qui, au brusque coucher du soleil, s'était élevée plus forte, soulevait dans l'ombre de pâle les légers tourbillons de sable qui, autour d'eux, semblaient autant de fantômes accourus du fond des Huacas pour leur reprocher leur impiété et leur sacrilège. Ces jeunes gens n'avaient point coutume de se monter l'imagination. Cependant, ils furent heureux d'être abordés, devant la villa, par un énorme majordomo, le valet de chambre de Cristobal, bien en chair et en os, qui leur apprit que le marquis et François Gaspard étaient déjà arrivés. Une petite domestique quichua, nommée Concha, se jeta avec les démonstrations coutumières de l'amour et de la servitude au pied de sa maîtresse en lui affirmant qu'elle, Concha, avait été certainement morte pendant son absence et qu'elle ne vivait qu'en sa présence véritablement. « Voilà comment nous les avons ici pour 800 laisses par mois, » dit Marie-Thérèse, tout à fait remise de ses émotions et reprise par les détails du ménage. « Et encore, cette petite fait admirablement le puchero, un pot-au-feu créole, dont vous me donnerez des nouvelles, mon cher Raymond. » « Maîtresse, fit la petite en souriant avec bonheur de ses énormes lèvres qui lui barraient toute la figure, je vous ai préparé le locro que vous aimez tant. » Ce soir-là, le dîner fut vite expédié, car tout le monde était fatigué, et François Gaspard devait se lever à la première heure du jour. Raymond et Thérèse étaient très prosaïquement bourrés de locro, un maïs cuit à l'eau, au sucre avec des petits morceaux de viande, le tout relevé de piment et arrosé de chica. La piquette de rigueur pour ces mets populaires, et quand ils se retrouvèrent au premier étage, prêts à se séparer sur le seuil de leur chambre, ils purent se rappeler en riant d'eux-mêmes leur transe passagère sur la plage après leur fuite du Huacas. La main de Marie-Thérèse s'attardait dans celle de Raymond. Bonne nuit à la Vierge du Soleil, dit le jeune homme, et il posa un baiser sur le disque de soleil lui-même, qui brillait au poignet de sa fiancée. Tout de même, vous n'allez pas dormir avec ce bracelet qui vient d'on ne sait où, d'on ne sait qui. Ah, il m'est cher à partir d'aujourd'hui. « Et puisque vous y avez posé vos lèvres, Raymond, je le garde. Je ne veux point d'autre gage de notre bonheur. » Et elle entra dans sa chambre. Elle n'en avait pas plutôt passé la porte qu'elle poussait un cri terrible et reparaissait affolée sur le palier. « Ils sont là, ils sont là !» balbutia-t-elle avec toutes les marques du plus grand effroi. « Quoi ? Qui ?» interrogea Raymond, épouvantée de la voir dans un singulier état d'agitation et de tremblement. Elle claquait les dents. « Mais les trois crânes vivants !»« Marie-Thérèse, est-ce que vous devenez folle ?»« Mais je vous dis qu'ils sont là, tous les trois crânes vivants, appuyés à la vide de mon balcon. » Ils m'ont regardé entrer dans la chambre avec des yeux épouvantables, mais avec des yeux vivants, des yeux qui ont retrouvé leurs prunelles. « Oh, Raymond, Raymond, non, 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 n'entrez pas, appelez papa !» Le jeune homme pénétra dans la chambre avec la lumière qui vacillait encore dans la main de Marie-Thérèse. Il alla au balcon, ouvrit la porte-fenêtre qui donnait d'un côté sur un coin de la mer et de l'autre sur le panorama lunaire de la plaine où, pendant le jour, les pioches sacrilèges avaient violé les demeures millénaires des morts. Et il ne vit rien qui le fût tout à fait normal. Il se retourna vers la jeune fille, qui s'appuyait toujours tremblante à la porte, et lui dit qu'elle avait été certainement victime d'une hallucination. « Voyons, Marie-Thérèse, vous qui êtes si raisonnable. Raymond, je vous dis que je les ai vus. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez vu? Là, sur le balcon, derrière la vitre, les trois crânes des chefs incas, les trois abominables crânes vivants qui me regardaient. Mais enfin, Marie-Thérèse, revenez à vous. Vous savez bien que nous les avons vus tirer sur le bord de la fosse. Ils y sont peut-être encore. Comment voulez-vous qu'ils viennent se promener sur votre balcon? Vous croyez aux revenants, aux fantômes? Mais je vous dis que ceux que j'ai vus n'étaient pas morts, qu'ils étaient vivants. » Raymond, pour la rassurer, crut devoir éclater de rire. « Ne riez pas, je les ai bien reconnus, » dit-elle. « Exactement. Ils y étaient tous les trois. La casquette crâne, le crâne pain de sucre et le crâne petite valise. Exactement. Mais qu'est-ce qu'ils venaient faire là? Pourriez-vous me le dire ? » Cristobal, attiré par le bruit que faisaient les deux jeunes gens, s'amusa de la peur enfantine de Marie-Thérèse. L'oncle François Gaspard se montra lui aussi en bonnet de coton. Sa vue fit rire tout le monde, excepté cependant Marie-Thérèse. Pour la rassurer, le majordome dut faire le tour de la maison. Mais il rentra sans avoir rien vu de suspect. Ce sont tous les morts de tantôt qui t'ont monté la tête, ma pauvre enfant. Je te croyais tout de même plus sérieuse que cela, dit Cristobal. Elle ne voulut point coucher dans sa chambre et en fit préparer une autre à l'autre bout de la villa. Raymond, pendant ce temps, parvenait à lui faire entendre raison. Elle comprenait enfin qu'elle avait été, qu'elle ne pouvait qu'avoir été troublée par les visions funèbres de l'après-midi. Et elle fut enfin d'avis que les crânes des morts ne reviennent pas se promener vivants derrière les fenêtres des demoiselles. Elle se trouva même un peu niaise. Elle entraîna Raymond sur le balcon du salon du premier étage, pour pouvoir lui confesser à lui, qui la croyait si sage, si raisonnable, combien elle avait honte d'elle-même. Ce balcon surplombait la mer dont le flot venait mourir de ce côté, au pied du mur de la villa. L'immense paix de l'océan finit par la calmer tout à fait. Alors, posément, elle ôta son bracelet. « C'est lui, » fit-elle, qui peut-être m'inquiète. En vérité, avant d'avoir passé à mon poignet ce bracelet inconnu, je n'avais jamais été assez sotte pour voir des fantômes derrière mes fenêtres. Et elle jeta le bracelet dans la mer. Raymond n'arrêta point son geste. « Ma foi, dit-il, je ne suis point fâché de cette solution. » Je vous offrirai une alliance, comme tout bon bourgeois de chez nous, et au moins on saura de chez quel bijoutier elle vient. Chacun s'en fut se reposer. La nuit se passa sans incident. Mais vers 7 heures du matin, un horrible cri, parti de la chambre occupée par Marie-Thérèse, faisait se précipiter de ce côté Raymond et les domestiques. Ils pénétrèrent dans l'appartement. Marie-Thérèse était assise sur son lit, la poitrine haletante, les yeux hagards. Elle fixait son poignet. Marie-Thérèse venait de se réveiller avec le bracelet Soleil d'Or.